Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. On connaît à peu près l'histoire des nababs d'Hollywood, les fondateurs historiques des studios californiens. On connaît Adolphe Zukor de la Paramount, Sam Goldwyn et Louis B. Mayer de la MGM, Harry Cohn de Columbia, les frères Warner bien sûr, Daryl Zanuck de la Fox. Mais on connaît moins bien les pionniers de l'industrie cinématographique en France. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Bernard Nathan. C'était pourtant un des plus grands et des plus importants producteurs français d'avant-guerre. Un homme visionnaire et un patron dynamique qui, tout en s'inspirant de l'exemple des grands studios hollywoodiens, a su résister à la féroce concurrence américaine. Un livre vient de sortir qui retrace la vie, la carrière et surtout la chute de Bernard Nathan, le fantôme du cinéma français. Il est signé par Philippe Durand et c'est édité par la manufacture du livre. Bernard Nathan a connu la gloire et son contraire, la déchéance, la descente aux enfers et ensuite l'oubli.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Philippe Durand.
Bonjour.
Vous êtes historien du cinéma et on vous doit quelques ouvrages de référence, des biographies de Jean-Paul Belmondo, de Simone Signoret, d'Alain Delon, de Lino Ventura, mais aussi de Michel Audiard, donc spécialiste de l'histoire du cinéma populaire français. Est-ce qu'on peut dire que Bernard Nathan, je dois vous avouer qu'avant de lire votre livre et de voir un documentaire qui lui a été consacré il y a 2 ans, je ne connaissais absolument rien de Bernard Nathan.
Ah bah c'est vrai qu'il a été un peu oublié des historiens du cinéma parce que son histoire dérange, si je puis dire, mais il a pourtant marqué le cinéma et comme vous l'avez dit, il a un peu fait rentrer les méthodes américaines dans le cinéma français. Et ne serait-ce qu'à ce titre-là, il faut lui rendre hommage.
Comment il commence dans le cinéma ? Parce que vous racontez, c'est un immigré, c'est d'abord l'histoire d'un migrant, comme on dit de nos jours, qui va rentrer dans le cinéma avec juste une envie d'être un ouvrier et de subvenir à ses besoins.
Oui, voilà, en fait, donc il quitte sa patrie pour des raisons religieuses et politiques, puisqu'il est juif et qu'il commence à y avoir des pogroms
en Roumanie.
En Roumanie, tout à fait. Et donc il vit en France parce que la France est la terre d'asile, c'est là où tout est possible, c'est l'Eldorado pour tous les gens de l'Est, et pour lui aussi, parce qu'il commence dans des petits métiers, et un peu par coïncidence ou par accident, il se retrouve dans le milieu du cinéma qui commence à éclore et à prendre vraiment forme. Et là, il travaille non pas comme acteur ni comme réalisateur, mais comme technicien dans un laboratoire. Et il s'intéresse de plus en plus au cinéma parce que, bon, bah, comme on le sait tous, le cinéma a un côté magique, mais surtout à cette époque-là, parce que tout était à faire, tout était à découvrir. C'était encore hormis pour quelques grandes firmes, c'était quand même quelque chose d'encore artisanal. Et lui va se lancer là-dedans avec une première vision, qui est de faire beaucoup d'actualités, parce qu'à l'époque, les actualités se regardaient dans les salles de cinéma, donc évidemment, c'était pas en direct. On avait droit à une semaine, voire un mois d'écart entre l'actualité et la projection dans les salles. Mais lui, il va se dire, bon, on va ramener beaucoup plus d'actualités dans les salles, et c'est comme ça qu'il a commencé, et il s'est développé, il a pris de l'importance.
Un autodidacte, on peut le dire.
Totalement, oui. Là. Ben vous savez, le cinéma, c'était même quand vous parliez des Warner et tout ça, c'est tous des autodidactes. Hein. Ils n'ont aucune formation. En général, ils ont commencé par créer des petites salles de cinéma. Et ils ont projeté des films qu'ils trouvaient à droite et à gauche. Ce qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire du cinéma, c'est que c'était à la base un spectacle pour forains. C'était pas du tout une industrie, c'était pas du tout un spectacle pour très grand public.
C'est pour ça que les métèques vont prendre cette opportunité que leur offre le cinéma quand il commence à se développer. Il n'attire pas encore à cette époque-là, c'est-à-dire au début du cinématographe, les gens de bonne famille ou la noblesse. Ça, vous le dites très bien, vous dressez le parallèle entre ce qui passe en France et aux États-Unis, mais là où entre en scène Bernard Nathan, c'est dans cette période très particulière du passage du muet au parlant. C'est-à-dire plus aux États-Unis, on est sûr que le passage au parlant va développer l'industrie cinématographique. Bizarrement, en France, on n'y croit pas trop.
En fait, aux États-Unis, on n'est sûr de rien. Quand le cinéma parlant arrive pour la Warner, c'est son ultime va-tout. C'est-à-dire que si le film ne marche pas, si le chanteur de jazz avec Al Johnson ne marche pas, la Warner plie bagage, on ferme, on oublie, on passe à autre chose. Ça a été un énorme défi, un énorme... La preuve, c'est que personne n'avait osé aller aussi loin qu'eux, même si l'histoire du cinéma parlant était déjà dans les têtes de beaucoup de producteurs américains. Et en France, on a la même réflexion, c'est-à-dire que le cinéma parlant, bon, ça va coûter une fortune, ça va être très compliqué, ça ne va pas plaire au public, autant laisser tomber. Le cinéma, on s'est amusé avec pendant quelques années, il va s'éteindre de lui-même, on va passer à autre chose.
Et c'est là contre-enjeu, donc Bernard Nathan, en rachetant une des firmes qui avait fait quand même la gloire du cinéma français balbutiant, le cinéma français muet, bien sûr.
Oui, voilà, il y a deux énormes firmes en France qui sont Gaumont et Pathé, créées par messieurs Gaumont et Pathé. Et donc, Bernard Nathan apprend que Pathé est à vendre. Pourquoi Pathé est à vendre? D'abord parce que le directeur commençait à vieillir et parce qu'il ne croit pas du tout dans le cinéma parlant. Il est convaincu que ça va lui coûter trop cher, qu'il va devoir plier boutique et donc il préfère vendre le plus rapidement possible, et le plus cher possible, bien entendu, avant la catastrophe, si vous voulez. Mais Nathan, lui, n'a pas du tout cette vision. Il est convaincu que si on fait des bons films grand public, et donc ce sont les méthodes américaines, on peut toucher un nouveau public. Alors c'est très très difficile parce qu'il va falloir envisager de se regrouper sur la France. Si vous voulez, l'avantage du muet, c'était que le muet était international. Par définition, il suffisait de changer des intertitres et vous projetez le film en Espagne, en Chine, où vous vouliez. Avec le parlant, ça va devenir plus compliqué. Et c'est d'ailleurs l'une des angoisses des producteurs et des distributeurs. Nathan, lui, dit « on va foncer, on va bien voir, on va mettre tous les moyens pour y arriver ». Et non seulement il y est arrivé, mais j'allais presque dire qu'il a fait des miracles.
Alors il a fait des miracles, mais d'ailleurs déjà à l'époque du muet, il va être un des premiers à utiliser des stars non françaises, et notamment une star américaine pour des productions cinématographiques. Ça vous le racontez très bien. Comment il arrive à s'imposer en tant que producteur? Est-ce que c'est parce qu'il a des idées, hein? C'est un homme d'idées, il veut adapter des grands chefs-d'œuvre littéraires, il a cette idée folle à l'époque, c'est-à-dire raconter l'histoire de Jeanne d'Arc au cinéma.
Oui, il a des idées, ça c'est indéniable. J'allais dire même qu'il a, en tant que migrant, comme vous disiez, il a plus d'idées qu'un Français, parce qu'il apprécie certains aspects de l'histoire de France et de la littérature française, qui pour les Français de l'époque, je veux dire, font partie du patrimoine, dont ils sont tellement évidents, tellement devant nous, qu'on les oublie, enfin que les gens de l'époque les oubliaient. Et lui, il se dit, on a Jeanne d'Arc, on a Les Misérables, on a des héros, j'allais dire, mondiaux, et des personnages mondiaux dans la littérature et dans l'histoire française, autant les utiliser. Mais tout cela, il le fait en ayant toujours un œil sur le cinéma américain, en se disant comment ils se font pour s'en sortir, comment ils se débrouillent. Or, avant lui, on n'osait pas, et surtout on n'avait pas envie de singer ni d'imiter le cinéma américain, qui était un cinéma un peu, non pas populaire, mais populiste, qui était très mal jugé par beaucoup de producteurs français. Et donc on disait, on va faire nous notre cinéma à la française, avec en général des comédies qui étaient des comédies militaires, etc., des films un peu bâclés. Lui non, lui voit grand, et surtout, il réussit à réunir les fonds non seulement pour acheter la firme Pathé, mais aussi pour financer des films. C'est là d'ailleurs que va être le gros problème de la carrière et du parcours de Nathan, c'est d'où viennent ces fonds et comment les utilise-t-il? Or, dans un premier temps, il les utilise pour acheter Pathé et pour produire, notamment, comme vous le dites, La vie de Jeanne d'Arc. Il a surtout été le producteur du premier film parlant français. Et il l'a fait à une vitesse faramineuse. Il a été en Angleterre parce qu'on trouvait pas de studio d'enregistrement en France et pour cause. Il a dépêché une équipe en Angleterre parce qu'il y avait un studio là-bas. Il a tourné le film là-bas. Il l'a ramené en France. C'était un culot monstrueux. C'était un pari audacieux. Et il l'a gagné. Le premier film français parlant, c'est du Bernard Nathan.
Alors, ce qui est passionnant en plus dans la vie de Bernard Nathan, vous venez de le dire, c'est un grand producteur, il est visionnaire, mais pas seulement, il va aussi investir dans l'équipement, dans les salles de cinéma, il va s'intéresser, comme il s'intéressait aux actualités, il va s'intéresser aussi à la distribution des films.
Oui, ça, tout ça, ce sont des méthodes américaines. Il faut savoir que la MGM, etc., possédaient donc leur studio d'enregistrement et de création de films. Ils avaient également la distribution des films. C'est eux qui géraient la distribution. C'est eux qui possédaient de nombreuses salles dans toute l'Amérique. Et donc, Bernard Nathan applique ces méthodes qui étaient déjà un peu appliquées. Si vous voulez, Gaumont et Pathé, ils avaient leur cinéma et tout ça, mais tout ça commençait un peu à vieillir. Il fallait l'adapter au parlant, donc il fallait investir dans des salles. Et Bernard Nathan se dit autant investir, autant faire des salles luxueuses. Il y a eu le fameux Marignan qui était sur les Champs-Élysées à l'époque, qui était un cinéma fastueux, où le public là était émerveillé rien qu'en rentrant dans le hall. Et tout ça, c'est ça que Nathan, il veut des paillettes. Et c'est là aussi pour la raison pour laquelle il invite des stars américaines, parce qu'il sait qu'elles sont connues en France, ce sont des références. Il est un des premiers à signer des contrats, c'est-à-dire des contrats de plusieurs années avec des acteurs et des actrices. Et tout ça, c'est de la méthode américaine, mais adaptée à la France et au public français. C'était ça la force de Nathan, c'est, j'allais dire, d'avoir un pied et un œil dans les deux continents.
Et autour de Bernard Nathan, vous venez de le dire, Philippe Durand, beaucoup de stars de l'époque, et parmi ces stars, une étoile qui brille dans le ciel parisien.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris. Le Paris de Bernard Nathan, c'est le Paris qui découvre le cinéma parlant, c'est le Paris aussi de Joséphine Baker. Ça vous racontait très bien la relation que va entretenir ce grand producteur avec les célébrités de l'époque dans votre livre, Philippe Durand, Le fantôme du cinéma français. Mais maintenant, on va revenir aussi sur une autre facette de Bernard Nathan, c'est-à-dire que on se pose la question, comment on a pu oublier Bernard Nathan, parce qu'il va être, vous venez de le dire, le producteur des premières grandes adaptations littéraires. Il sera celui qui va faire un grand film populaire autour du personnage de Jeanne d'Arc. Il va travailler avec les stars de l'époque, mais aussi en tant que distributeur, on lui doit l'arrivée de Mickey en France et en Europe.
Tout à fait. Il avait été au cours d'un voyage, on lui avait montré les dessins animés de Mickey. Alors évidemment, vous montrez les dessins animés de Mickey, un distributeur français, il va sourire doucement. Et lui, il se dit qu'il a un personnage là qui est inimaginable, et il est le premier, effectivement, à avoir ramené Mickey en France. J'allais dire que rien qu'à ce titre-là, il mérite une petite place, voire une grande place dans les dictionnaires du cinéma.
Et maintenant, on va commencer à parler de la chute, parce que il va connaître la gloire, Bernard Nathan, et puis ensuite l'enfer. Et s'il fallait commencer par donner le véritable nom de Bernard Nathan, parce que Bernard Nathan, c'est le nom d'emprunt de sa naturalisation, on peut le dire.
Oui, il s'appelle Tannenzapf. Né en Roumanie, et comme vous l'avez dit, métèque, parce que c'est comme ça qu'on les appelait en France à l'époque, c'est un métèque, qui ne s'est jamais caché qu'il était métèque, mais c'est vrai que pour des raisons commerciales, Bernard Nathan, ça sonnait un peu mieux.
Et après les années folles, les années de terreur en France, une page noire s'ouvre avec des difficultés pour Bernard Nathan. Alors, dans votre livre consacré à ce producteur, à sa gloire, mais à sa chute, il y a deux choses très différentes. Il va être accusé d'avoir mis en faillite une entreprise, d'avoir été escroc, et en même temps, ce qu'on lit dans la presse de l'époque, c'est la montée de l'antisémitisme.
Oui, alors vous vous posez la question pourquoi on ne parle plus de Bernard Nathan aujourd'hui et pourquoi on en a peu parlé. C'est tout simplement parce qu'à travers son histoire, c'est tout un portrait de la France qui apparaît. Et c'est une France totalement antisémite. On oublie ça parce qu'on veut l'oublier, parce qu'il y a eu la guerre entre deux et tout ça, mais il faut se souvenir que dans les années 30, la France était antisémite. Il n'y a pas à nier là-dessus. C'est une évidence, c'est dans les journaux, c'est dans les faits. Et quelqu'un comme Bernard Nathan était une cible idéale, puisqu'il reprend une firme qui était en train de chuter, qui était en train de mourir. Non seulement il l'a fait renaître, mais il en fait la première firme de France, voire d'Europe. Et là, on commence à se douter en disant, mais c'est qui ce métier qui se permet de nous donner des leçons d'économie, de cinéma et de spectacle à nous, Français de souche, depuis des générations et des générations. Et là, il y a le clivage. Oui, s'il n'avait pas été juif, peut-être que son destin aurait changé. Mais en tous les cas, il l'a payé très très cher.
Alors, pour quelqu'un qui avait fait la guerre, la Première Guerre mondiale, il va être arrêté, déchu de sa nationalité, emprisonné et enfin, pour terminer, livré aux nazis. Et il sera déporté en 1942 dans le camp de la mort d'Auschwitz. Il mourra là-bas, très peu de temps après. Bon, alors, ce qu'on reprochait à Bernard Nathan, c'était quoi au juste? C'était de s'être enrichi, d'avoir blanchi de l'argent, d'avoir
non,
fait...
Il n'y a pas eu blanchiment d'argent. Disons qu'il a fait une magouille financière.
Ouais.
Je suis pas un expert en économie, je pense que beaucoup de sociétés l'ont fait et le font encore. C'est-à-dire qu'il s'est servi d'une de ses sociétés pour acheter un brevet dans une autre de ses sociétés. En fait, il avait besoin de liquidité et il a fait un tour de passe-passe, comme ça, économique. Ça s'est su, et notamment il y a eu une personne qui a été flouée là-dedans. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce qui est important à dire, c'est qu'il a été donc traîné devant les tribunaux. Il a avoué sa faute. Il n'a pas dit non, je n'ai pas fait, non, c'est pas fait. Il a dit oui, effectivement, j'ai fait une erreur. Il a expliqué pourquoi il l'avait faite, parce qu'il avait besoin de liquidité. Et je veux dire, ce tour de passe-passe financier aurait dû se solder, je ne connais pas la justice de l'époque, mais aurait dû se solder avec peut-être une peine de prison, une lourde amende, et en tout cas, bon, on lui tape sur les doigts. Mais si on devait aller fouiller dans toutes les sociétés françaises de l'époque, je pense qu'il y a eu bien pire. Mais ça a dégénéré du jour au lendemain, parce qu'encore une fois, c'était le repreneur de la maison Pathé, donc qui donnait des leçons aux Français, des leçons d'économie et de spectacle. C'était un juif, et ça c'était impardonnable à l'époque, un juif qui s'enrichit à cette vitesse-là et qui devient un des personnages les plus importants du cinéma français, c'est très 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 mal vu.
Et donc?
Oui, non, j'allais dire, on va le dégommer à une vitesse et une violence qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
Oubliez donc son militantisme, son patriotisme, oubliez aussi le soldat qu'il fut durant la Première Guerre mondiale, oubliez ce film magnifique, presque Saint-Sulpicien, dites-vous, sur la vie de Jeanne d'Arc, son ode aux soldats dans cet autre film, Les Croix des Bois, ses adaptations des grands classiques littéraires, y compris des classiques français, comme Victor Hugo et Mizola. Il va devenir le juif le plus haï de France, dites-vous, Philippe Durand, et la presse va lui sortir des affaires assez sordides. Par exemple, c'est quoi cette affaire de films pornographiques qu'il produisait en secret pour les milieux mafieux interlopes?
Non, alors ça c'est vrai, j'en ris parce que c'est tellement ridicule comme accusation, mais ça ne l'a pas dû le faire rire beaucoup. C'est vrai qu'on tout d'un coup on a imaginé, parce qu'il avait produit des films à une certaine époque. À l'époque, vous savez, comme je disais tout à l'heure, que le cinéma était forain, le cinéma était aussi beaucoup dans les maisons closes, c'est-à-dire qu'on beaucoup de petites firmes filmaient des scènes un peu guillorettes qui étaient projetées dans les maisons closes pour amuser et égayer ces messieurs. Et donc on l'a accusé de ça, on a ressorti des images, mais j'ai vu ces images, elles n'ont aucun rapport physiquement avec Bernard Nathan. Vous voyez une espèce de grand type qui doit faire 1m90 et lui il en faisait 1m60. Enfin bon, mais on l'accusait de tout, de pornographie, de tout. Et il a tout pris parce qu'il fallait, si vous voulez, l'avilir le plus totalement possible. Il représentait à lui seul, il symbolisait tous les vices possibles et imaginables. Alors déjà, il était juif, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque, mais en plus donc il était pornographe, escroc, etc., etc. C'est inimaginable de mettre autant de choses sur le dos d'un monsieur qui n'avait qu'un défaut, c'est d'avoir beaucoup de talent.
Alors, il y a quelque chose que vous n'expliquez pas dans votre livre, Philippe Durand, c'est pourquoi Pourquoi l'oubli après, c'est-à-dire qu'il aurait pu être réhabilité après la guerre? Eh ben, il n'y a rien eu. Silence jusqu'en 2017. Je crois que c'est en 2017 oui. que sort le documentaire de Francis Gendron, Nathan, le fantôme de la rue Francaire. Et puis, votre livre qui sort cette semaine. Mais pourquoi on l'a oublié? Pourquoi il n'a jamais été réhabilité?
Bah d'abord parce que tout bon, il y a eu l'importance, et ça il faut pas la nier, de Charles Pathé qui a vraiment voulu mettre la casserole sur le couvert sur la casserole pour étouffer toute cette affaire et récupérer une partie de ses biens, et parce que si vous voulez, il y avait un peu du côté de Charles Pathé, hein, il était un peu honteux d'avoir vendu une firme qui était moribonde et deux ans après elle devient la première firme européenne sans lui. Donc il y avait ça, et il y avait surtout ce que je vous disais tout à l'heure, si on évoque aujourd'hui le problème Bernard Nathan, il faut évoquer le problème de l'antisémitisme en France à cette époque. Donc il faut se souvenir que nos grands-parents ou arrière-grands-parents n'étaient pas
ouais,
des
blancs-bleus. Oui, mais ça c'est reconnu aujourd'hui. Cette page noire de l'histoire française est reconnue aujourd'hui.
C'est reconnu dans certains domaines, mais c'est pas reconnu dans le milieu du cinéma français. On ne parle jamais des producteurs juifs français. C'est même ceux qui ont après la guerre, qui ont été des très très grands producteurs. Il y en a eu beaucoup, et il y en a encore. Tout ça, c'est une page du cinéma français qu'on n'aime pas évoquer. Pourquoi, je ne sais pas trop. En tous les cas, oui, il y a un mur du silence autour de cette époque, parce qu'on voudrait croire que la France, c'est Paris et toutes ces fanfreluches. Mais non, la France, le cinéma français, a ses pages de honte. Et là, c'est même plus une page de honte. C'est-à-dire, c'est un énorme, c'est une encyclopédie de la honte, ce qu'a vécu Bernard Nathan.
C'est un ouvrage très intéressant, très instructif et très documenté. Le fantôme du cinéma français, gloire et chute de Bernard Nathan à la manufacture de livres qui vient de sortir. Merci beaucoup, Philippe Durand, d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis le Québec où vous vous trouvez, si je veux. C'est bien ça?
Je m'y trouve momentanément, oui. Merci à vous.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture et être fidèles au réveil culturel. On se retrouve donc demain à la même heure. Dans un instant, les premières informations du jour.